Scientifique.
Scientifique.
Utopique.
Utopique.
Technique.
Technique.
Écologique.
Écologique.
Pragmatique.
Pragmatique.
C'est l'Écolo Buissonnière, l'émission qui va à la rencontre de l'environnement dans tous ses états. Bonjour, bienvenue sur Écolo Buissonnière. Alors, on lance une session qui durera un temps totalement indéterminé, mais sur un sujet qui me tient énormément à cœur, l'écoféminisme. Donc, on commence aujourd'hui avec Maude Raffray. Bonjour Maude.
Bonjour Marie.
Merci d'être venue inaugurer cette série et ce sujet qui aussi, je crois qu'on est toutes les deux convaincues, engagées. Mais il va falloir peut-être embarquer les gens avec nous et leur expliquer de quoi on parle. Mais avant ça, en quelques mots, qui es-tu, que fais-tu ?
Alors, je m'appelle Maude Raffray, je suis activatrice d'égalité femmes-hommes, c'est mon métier. Et je l'exerce particulièrement auprès du secteur culturel et un peu aussi auprès des politiques publiques locales, puisque j'ai fait la quasi-intégralité de mon parcours plutôt comme chef de financière, puis chef de projet, puis cadre dirigeante dans des structures publiques ou parapubliques, dont une quinzaine d'années à Nantes aujourd'hui. Et j'ai décidé de me consacrer à la question de l'égalité femmes-hommes il y a à peu près, je dirais, trois ans. Alors, parce que c'était devenu central pour moi.
Activatrice d'égalité, si je fais un peu pour mettre les pieds dans le plat, quelqu'un qui ne connaît pas trop le sujet dit bon, on a les quotas et puis voilà. C'est déjà, alors, quotas, pas quotas, c'est bien, c'est pas bien, ça suffit pas.
T'aimes bien gratter.
Bien, non mais, on peut pas ne pas, enfin, égalité femmes-hommes, est-ce que ça sert la cause ou pas? C'est un débat.
Les quotas, est-ce que ça sert la cause ?
Mmh.
Ben malheureusement, l'histoire dit que oui.
Eh ben ouais.
On aimerait bien s'en passer. Tout le monde aimerait bien s'en passer, à commencer par les femmes, je pense. Mais l'histoire nous montre que tant qu'il n'y a pas eu d'objectifs de quotas ou d'obligations, quelles qu'elles soient, ou d'objectifs chiffrés, assortis de pénalités ou d'encouragements quelconques, en général financiers, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et tout le monde est d'accord pour l'égalité, mais personne ne la met en œuvre. Donc, c'est évidemment pas le seul levier. Et en plus, c'est un levier qui concerne surtout la question du plafond de verre, de l'accès à des fonctions dont les femmes étaient complètement exclues et qui sont plutôt des fonctions à responsabilité. Mais ça fait pas l'intégralité d'une politique d'égalité. On peut parler de la façon dont on communique, on peut parler de la façon dont on fabrique, dont on accompagne des parcours d'artistes, de femmes par exemple, comment on juge le talent qui est soi-disant une évaluation neutre. En fait, on se rend compte, la recherche nous montre qu'il n'y a pas du tout de neutralité dans la façon dont on juge le talent, mais qu'on est très conditionné par des constructions sociales, esthétiques qui ont été longtemps aux mains des hommes. Donc même les femmes se les sont appropriées. Et par exemple, en musique, on a des exigences aujourd'hui de qualité de production, y compris pour des très jeunes artistes, qui nécessitent d'avoir déjà eu accès à des moyens, par exemple. Or, elles accèdent moins aux studios de répétition parce qu'elles n'y vont pas, parce que c'est des environnements qui sont classiquement extrêmement masculins, donc elles se projettent pas. Enfin, il y a plein d'empêchements à plein d'endroits. Le genre des instruments, enfin voilà. Donc là, je prends l'exemple de la musique, mais une politique égalité, c'est, je dirais que les quotas, c'est des effets de levier, souvent indispensables. Sans quotas, on n'aurait pas de femmes en politique comme on en a aujourd'hui. Et malgré la parité qui existe depuis longtemps maintenant, on n'a jamais que 20% de femmes mères en France. Sans les quotas, on n'aurait pas fait des progrès majeurs. Aujourd'hui, on a quand même dans les entreprises, dans les conseils d'administration des entreprises qui sont concernées par cette règle, ça y est, maintenant il y en a plus de 40%. Mais partout où c'est pas obligatoire, il y en a toujours pas. C'est pas l'unique solution. On va dire que pour moi, c'est une espèce de locomotive pour forcer le reste.
C'est un outil concret qui est utile. Et alors. Pour illustrer, continuer d'illustrer ça, à Nantes et dans d'autres endroits, je suppose, la ville souhaite devenir non sexiste. Mmh. Alors, c'est une appellation, on dit tiens, c'est intéressant, une ville non sexiste. Est-ce que tu peux illustrer de façon très concrète, c'est quoi une ville non sexiste ou qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qui est sexiste dans la ville ?
À peu près tout. En fait, quand on s'en occupe pas... C'est pas facile à expliquer en quelques minutes, mais globalement, quand on s'occupe pas de la question du genre et de l'égalité, on fabrique du sexisme et on reproduit des inégalités. Pendant très longtemps, la ville, elle a été fabriquée par et pour les hommes. C'est comme ça que les géographes du genre le disent, que les hommes occupent l'espace public et que les femmes s'y occupent. C'est-à-dire que quand elles sont dans l'espace public, c'est pour y réaliser des tâches, des trajets d'endroit à endroit, là où les hommes ont des positions beaucoup plus à la fois statiques et de loisirs dans l'espace public. Et ça continue, puisque par exemple, tous les espaces de loisirs dans les espaces publics, la plupart du temps, sont des espaces qui sont très fréquentés et trustés un peu par les hommes. Je pense au City Stade, au skate park. Alors, on pourrait nous rétorquer qu'ils ne sont pas interdits aux femmes et qu'elles n'ont qu'à y aller. Sauf que c'est plus compliqué que ça, en fait. L'omniprésence masculine exclut d'autres formes de présence, pas que les femmes d'ailleurs, y compris les enfants, par exemple, en spécialisant complètement les espaces. Donc il y a la question urbaine, mais il y a la question, la ville, c'est aussi la vie démocratique, c'est aussi comment les citoyens et les citoyennes participent à la vie de leur ville. Or, je te le disais tout à l'heure, il y a 20% de femmes maires, mais il y a aussi dans tous les dispositifs de participation citoyenne. S'il n'y a pas une attention portée a priori au fait qu'on va avoir une égale participation des femmes et des hommes dans des conseils citoyens, tout ça, eh ben ça se passe pas.
Si on fait ça un mercredi après-midi, c'est raté.
En fait, à vouloir traiter tous les citoyens et les citoyennes sur un pied d'égalité au motif qu'en fait on s'en fiche qu'ils soient hommes ou femmes, on reste aveugle sur la particularité des expériences vécues. Or, aujourd'hui, les expériences vécues, elles restent statistiquement, globalement, différentes pour les femmes et les hommes, parce que on les connaît, les statistiques, le temps domestique est très majoritairement pris en charge par les femmes, que ce soit le soin, les courses, le soin aux enfants, le ménage, etc. Et c'est pas du tout pour enfermer les femmes là-dedans, mais c'est pour prendre en compte ces situations et arrêter de les renvoyer en permanence à la question privée de la négociation à l'intérieur du couple. Parce qu'en fait, c'est un phénomène social et c'est pas du tout un phénomène privé.
Donc, alors c'est là voilà, j'aimerais
ça peut
bien
partir dans plein de sens. La ville non sexiste, c'est aussi de faire en sorte que des structures culturelles se mettent en marche pour la parité en termes de programmation, par exemple.
Alors j'aimerais bien justement qu'on glisse de cette notion féminisme à écoféminisme. Parce que là, vous venez d'en parler. Le féminisme, c'était un peu les femmes sont des hommes comme les autres. En stéréotypant. Et là, on est déjà dans une inspiration écoféministe. S'il y a des hommes et des femmes, c'est que sans genrer, et c'est pour ça que c'est toujours un peu difficile. Nous-mêmes, on n'est pas des femmes, des stéréotypes de femmes. Moi, je fais sans doute moins de tâches ménagères que mon conjoint, et tant mieux, mais je suis consciente d'être une minorité. Par contre, voilà, prendre en compte le genre, qu'est-ce qu'a apporté l'écoféminisme par rapport au féminisme ? Qu'est-ce que ça apporte en ce moment ?
Plein de choses. Je dirais, pour moi, fondamentalement, c'est la convergence des combats, la réconciliation des combats. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans les luttes. La question écologique, elle est intrinsèque. Enfin, en fait, tout part du principe que, en fait, il faut ressortir des rapports de domination. Or, les rapports de domination, ils s'exercent à plein d'endroits différents. Ils s'exercent sur les questions de genre, donc à travers le patriarcat. Ils s'exercent à travers l'exploitation des ressources. Alors, on voit dire l'humain, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus les hommes, historiquement. Sur la planète, et aussi dans un rapport de la question décoloniale, parce que c'est aussi l'exploitation de certains hommes, et en tous les cas de certaines civilisations, sur d'autres, et avec des géographies différentes. Donc la lutte écoféministe, elle englobe, elle veut s'inscrire dans une espèce de convergence, enfin en tous les cas de pensée systémique, de tous ces rapports de domination. Donc moi, ça m'a permis aussi de réconcilier mes combats et de pas être d'un côté écolo, de l'autre côté féministe. Le combat féministe
et anticapitaliste.
Voilà, c'est ça.
Disons-le.
Et le combat écoféministe, en plus, il permet aussi de réconcilier la question alors d'une sorte de féminisme populaire aussi, mm-hmm. parce que l'histoire de l'écoféminisme, c'est quand même avant tout pas du tout des femmes qui se décrètent écoféministes, mais qui prennent en charge, qui se mettent ensemble pour mener des luttes collectives pour le soin, en fait, de leurs enfants, pour lutter contre des industries chimiques ou du nucléaire, contre le nucléaire, ou pour leur espace de vie et d'autonomie. Enfin, donc, en fait, il y a vraiment, c'est vraiment un mouvement qui part quand même de la base et qui veut inclure le plus possible de femmes à l'heure où certaines luttes féministes, voilà, pourraient s'être concentrées, par exemple, sur les questions de parité qui sont absolument nécessaires, je pense, mais qui peuvent occulter complètement toute l'invisibilisation qui peuvent générer de l'invisibilisation de plein d'autres femmes. Donc moi, c'était aussi une façon de réconcilier. Et puis alors, il y a autre chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je suis convaincue qu'on ne fera pas de transition écologique, de transition de modèle de développement, si fondamentalement, les femmes n'y participent pas autant que les hommes, et partout, à tous les endroits, tout le temps. Sinon, je vois pas comment, avec un ancien modèle, on va en fabriquer un nouveau.
Alors là, c'est un teasing de dingue pour entamer cette prochaine session, juste après cette pause musicale. En plus, vous avez emmené plein de livres et on a envie de savoir toutes ces femmes qui ont porté cette vision et ces causes, hein, convergence des causes. Et là, bah, ça tombe bien, on a une femme, donc on va pouvoir écouter une artiste qui s'appelle Laure Briard, qui a fait Super Trama.
Depois que a noite cai, é mais difícil de carregar o coração pra sair. A lua negra, o sol tentando um tiro magro, que outra forma reluz. Voltei no tempo que você era pequeno. Aquele corredor tem a mesma cor. Não é fácil. Quem gerou as leis? Quem fez o desenho sem rosto? Quem partiu? Quem não mentiu? Quem te amou? Super, super drama. Que sou minha cama nesse sonho. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar. Aquele corredor tem a mesma cor. Não é fácil. Quem gerou as leis? Quem fez o desenho?
Écolo Buissonnière sur E-Radio.
Et sur l'Écolo Buissonnière, on parle écoféminisme. Et j'ai avec moi Maud Raffray. Rebonjour Maud, et toujours bienvenue. Donc, racontez-nous tous ces beaux livres que vous avez sous les yeux. Beaucoup de couleurs, hein, des très colorés. Alors, qu'est-ce que... Parce que finalement, il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions sur l'écoféminisme. Et souvent, c'est un mouvement naissant. Tiens d'ailleurs, ça fait... C'est quoi ? Non, naissant. Non, en fait, non, on ne connaît pas bien. C'est né comment, l'écoféminisme,
Maud ? Oh là là, je ne vais pas faire un cours. alors, il y a plein de façons de le dire. Le mot, déjà. Le mot, on le doit à Françoise Daubonne, écoféministe radicale. Qu'il a inventé, je crois, la première fois qu'il l'a utilisé en 1974, je crois.
Et ben c'est quand même récent.
Oui, c'est quand même récent, c'est vrai. Après les mouvements écoféministes, les historiennes sont un peu d'accord aujourd'hui pour dire qu'ils sont nés à plein d'endroits différents, à peu près en même temps, en fait, dans les années 70 et 80, et avec des formes un peu différentes, proclamées écoféministes ou pas. Donc, les plus connues, c'est aux États-Unis, les femmes qui ont tissé des toiles autour du Pentagone pour protester contre le nucléaire. En Angleterre aussi, en Asie, en Inde, le mouvement Chipko, des femmes qui entourent les arbres pour pas qu'on les coupe, parce que c'est leur habitat et finalement leur espace de vie. Il y a les femmes de la ceinture verte au Kenya, en Afrique. Donc il y a plein de mouvements en fait de femmes qui ont la caractéristique commune d'être plutôt des mouvements issus d'une base comme ça, enfin un peu spontané qui unissent leurs forces. Donc il y a quand même cette question de l'émancipation collective qui est importante dans l'histoire quand même de l'écoféminisme, et pour défendre en fait la non-violence, la santé de leur environnement et de leurs enfants, par exemple, dont elles constataient qu'ils avaient de plus en plus de maladies aux États-Unis parce qu'il y avait des industries chimiques autour. Voilà, donc c'est souvent des mouvements hyper populaires en plus, parce qu'en général, les premières victimes des dégâts environnementaux, ce sont à la fois les plus pauvres et parmi les plus pauvres, les femmes. Donc c'est souvent elles, voilà, qui se sont mobilisées. Mais après, il y a aussi ce qui est pas facile à comprendre, mais qui du coup est assez chouette aussi dans le mouvement écoféministe, c'est finalement, c'est des écoféminismes, mais un peu comme il y a des féminismes. Et il y a des branches un peu. C'est quand même des mouvements qui sont très attachés à la fois à l'action pratique collective, où il y a une grande part de créativité, souvent. Ils utilisent beaucoup la performance artistique, par exemple, dans leurs actions. Il y a une grande place à la spiritualité. Ce qui n'est pas nécessairement toujours facile à négocier pour des féministes matérialistes, historiques, en France en particulier, qui fait une telle place au mental. Et l'idée, elle n'est pas de dire que le mental et la raison n'a pas sa place, mais que y a tout un truc qui vise à un rééquilibrage entre la tête, les émotions et le corps. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup tiré au début sur les écoféministes, et en fait c'est un mouvement qui est en train de naître franchement en France, parce que c'est vrai que dans les années 70-80, il n'a pas du tout, c'est pas du tout celui là qui s'est imposé en France. Et en fait, on l'a beaucoup accusé, je pense à tort maintenant, avec toutes les lectures que j'ai faites quand même, d'être essentialiste, c'est-à-dire de renvoyer les femmes à leurs conditions de plus proche de la nature que les hommes, d'être plus dans les émotions et moins dans la raison, enfin tout un tas de trucs qu'on met dans le grand paquet des valeurs féminines, qui sont comme de par hasard toujours moins bien cotées que les valeurs classées dans les valeurs masculines. Et en fait, pas du tout. Les écoféministes, elles sont... je pense que j'en ai pas lu une seule qui dit que c'est la nature profonde et fondamentale et inchangeable de la femme et pas du tout des hommes. Alors, il y en a qui s'appuient beaucoup sur cette histoire de polarité féminine et masculine en disant que chaque être humain a ses deux polarités et qu'en fait, il faut réconcilier aussi les hommes avec leur polarité féminine. Et il y en a d'autres qui s'inscrivent plutôt dans le fait de dégenrer complètement ces questions-là et de dire les émotions, c'est tout le monde, elles sont ni féminines ni masculines, que la question de la relation, de l'empathie, du soin aux autres et tout ça, c'est pas une question de valeur féminine, c'est une question humaine. Après, je crois qu'on y va par ses propres sensibilités. Je pense qu'il y a certaines personnes pour lesquelles la question de la polarité, de la double polarité et d'avoir en soi, de mettre en soi le curseur à l'endroit qui nous convient. Donc, on pourrait avoir des hommes avec une grande polarité féminine et ce qui n'a rien à voir avec les identités, avec les orientations sexuelles et les identités de genre par ailleurs. C'est un peu compliqué. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, pensent que le fait de cultiver tout le temps ce truc du féminin masculin peut nous enfermer, quoi. En disant quand même, les femmes devraient être d'abord principalement dans le féminin et les hommes d'abord principalement dans le masculin. Et puis, il y a des écoféministes hyper branchés spiritualité et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, qui sont hyper branchés action militante écolo. Ouais. Voilà. Donc, il y a de la place.
Vive la diversité. Voilà. Alors, comment ils nous racontent ça? Parce qu'il y a quand même... Alors, vous nous avez annoncé aussi, les lectures, ça déménage. Alors, qu'est-ce que vous avez lu et qui a fait un... Voilà, c'est ce qui m'a nourrie parce que c'est quelque chose de très intime. Puis finalement, avant de partager ça au micro comme on le fait, il y a cette petite lecture intime. Donc, par quoi vous commenceriez?
Moi, j'ai la chance de connaître Vincent Daubonne, qui est le fils de Françoise Daubonne, qui est un ami de mon compagnon et maintenant un ami. Donc ça fait longtemps que je connais l'existence de Françoise Daubonne, mais je ne m'y suis pas intéressée du tout tout de suite, et je suis loin d'être une spécialiste de Françoise Daubonne. Mais ça a quand même mis une espèce de germe dans ma tête, où je savais que l'écoféminisme existait, même si moi je ne suis pas entrée dans le féminisme de cette façon-là. Et donc, alors, mais elle est très difficile à lire, Françoise Daubonne. Donc, je conseille vraiment le bouquin qui a été écrit par Caroline Goldblum, qui s'appelle Françoise Daubonne et l'écoféminisme, qui est un tout petit bouquin qui doit faire un peu plus de 100 pages et qui est vraiment une super entrée. Après, dans sa forme à elle, de grande radicalité politique. Moi, j'ai adoré le bouquin aussi de Jeanne Burgard-Goutal, qui est une prof de philo et qui a publié un bouquin, je crois, l'année dernière, qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique ». Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important dans l'écoféminisme. C'est ne pas... Il n'y a pas du tout une suprématie du champ théorique et académique. Il existe de plus en plus, mais c'est très articulé avec une pratique, une incarnation quotidienne dans sa propre façon de vivre, dans ses groupes de lutte immédiats, proches, etc. Et Jeanne Burgard-Goutal, elle en parle hyper bien. C'est très facile à lire. Alors c'est un livre un peu plus important, mais c'est vraiment facile à lire. C'est un peu des essais un peu à la Mona Chollet parce qu'elle nous emmène dans son propre cheminement à elle. Et puis moi, Reclaim, il est très connu, mais je trouve c'est beaucoup plus compliqué d'accès. C'est vraiment un des recueils de textes originaux qui sont traduits en français. Donc on part dans la pensée de plein d'écoféministes différentes à travers le monde et tout. C'est un peu costaud, quoi. Faut être branché philo quand même. Et sinon, moi, je voulais parler aussi de celui. Les Déliés, le roman de Sandrine Rudeau, qui n'a jamais pensé qu'elle écrivait un roman écoféministe. Elle dit que c'était pas son intention.
C'était quand même très imprégné. Elle est comme ça.
Voilà. Et quand même, c'est d'une évidence absolue. Donc, si on a envie à la fois d'en apprendre beaucoup sur toutes les questions de transition démocratique, écologique, féministe, etc.
C'est un roman.
Et de suivre, tout en suivant des personnages féminins qui sont très intéressants parce qu'ils sont singuliers. Et on voit aussi comment on peut incarner personnellement l'écoféminisme de plein façon différente. Et puis moi, ce qui a été mon déclic, le dernier déclic, c'est Sortir des bois de Odile Chabriac, qui est en sous-titre « Manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui ». Et c'est vraiment, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi réconciliée entre peut-être un cheminement personnel sur les questions de jamais perdre de vue ou au moins, en tous les cas, faire marcher mieux possible ensemble la tête, le corps et le cœur, et le fait de ne pas perdre une espèce de feu d'engagement politique pour la cité. Et elle vraiment, elle m'a fait comprendre que, ben, en fait, fallait y aller, quoi.
Voilà. Ah bah, puis voilà, c'est parfait. C'est
sortir des bois.
Fin. Sortons des bois et faut y aller. Mmh. Merci. En plus, t'as les yeux qui brillent quand, quand on en parle. C'est motivant. Donc, merci, Maud. C'est passé vite. Hein. 30 minutes pour parler de ce sujet dont on pourrait parler
des heures,
des journées, des soirées, des nuits. Merci pour ce lancement. Enfin, je pense qu'on a bien. Voilà, on s'est situé et une grande culture. Et je vais foncer à la librairie en sortant, c'est obligé. Eh bien, rendez-vous juste dans le prochain épisode avec Marie Pouliguen de Mande Poivrée qui va nous parler de ce sujet aussi avec toute sa sensibilité et sa spécificité. C'était l'Écolo Buissonnière.
C'était l'Écolo Buissonnière sur Euradio. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur euradio.fr.